Alors simplement avec ce message de ce matin, je voulais vous partager un petit peu de mon été. On l'a déjà fait par les chants. Et je voulais vous partager aussi comment Dieu avait travaillé mon cœur au travers de cet été. Alors je commence tout de suite par une petite anecdote. Vous savez que nous sommes partis donc 10 jours en colonie. Et déjà dès le début, Dieu a travaillé mon cœur. Cette année, on devait partir à 4 dans la voiture, étant donné que ma grande sœur devait prendre Elsa. Et on s'est dit, ouais, super, on va avoir que 2 enfants. Jacob, Anaé, ça va être calme. On va passer une route tranquille. Sauf que le téléphone sonne, Jean nous appelle et Ephraim devait se joindre à nous parce que du coup, il ne pouvait pas aller en train, il n'y avait plus de place dans le train. Et donc, on cherchait une solution pour aller l'apporter. Et puis bon, moi je me suis dit, c'est hors de question, Jean ne peut pas, du haut c'est de 70 ans, faire l'aller-retour comme ça sur un week-end, il va être trop fatigué et tout. Mais déjà, mon cœur a été travaillé parce que c'est pas je voulais pas prendre Ephraim. C'est juste que je me suis dit, ah, on était cool, 2 derrière, pas de dispute, etc. On va devoir prendre un 3e enfant. C'est sûr, il va avoir des petits accrochages, etc. Et donc, du coup, tout de suite, je me suis dit, ah mince, changement de plan et tout. Ah. Et donc, Dieu m'a montré combien, des fois, notre cœur peut être dur. Et donc, les changements sont parfois difficiles à accepter. Mais c'est ça aussi, être chrétien, frère et sœur, c'est pratiquer la charité. C'est être aimant. Et donc, au lieu de se réjouir tout de suite de cette présence, au début, on s'est dit, mince, petite difficulté. Et ça, c'est le cœur de l'homme. Mais on était content de pouvoir prendre Ephraim avec nous et on a passé du coup 10 jours là-bas en colonie qui se sont très bien passés. On était cette année 24 colons. J'avais pour ma part l'équipe des grands avec Kerian que je vous reparlerai après. On était 6 animateurs et 6 personnes dans l'équipe d'encadrement avec l'équipe technique. Il y avait une directrice, la cuisine, les courses et le ménage. Et on avait aussi 4 petits bouts. Qui étaient là avec les parents, qui ne pouvaient pas faire partie des colons, mais qui étaient aussi avec nous pour participer. Au total, on était 40 sur le camp le midi, quand on mangeait tout ça. C'était déjà une belle colonie. Et puis, on a vraiment passé des bons moments. C'était vraiment chouette. L'avantage, vraiment, c'était qu'on était 2 encadrants par équipe. Et puis, on était aussi on était une équipe de personnes qui connaissent leur travail. On avait déjà de l'expérience et tout aussi, et donc ça a été assez facile, je ne vais pas vous cacher. Même si, bon, c'est fatigant, le bruit, les enfants, préparation des activités et tout ça. Mais honnêtement, c'était vraiment sympathique de pouvoir servir dans ce camp cette année. Et une belle rencontre, Kerian, un petit jeune qui était là pour apprendre, pas du tout chrétien, venant d'une famille, c'est un collègue à Stéphanie. Il n'avait pas trouvé de stage, il a que 17 ans, il passe son BAFA et donc personne ne voulait le prendre. Et donc il s'est un peu retrouvé à faire la colo avec nous, mais volontairement. Hein. Et une belle rencontre. Un garçon qui a bien fait le taf, etc., qui a bien su faire son travail, même s'il était stagiaire. Et puis au-delà de ça aussi, je voudrais vraiment vous le remettre dans la prière parce que ce jeune, moi j'avais le sentiment qu'il buvait les paroles. C'est-à-dire qu'il y avait un réel intérêt, il n'était pas réfractaire. On a pu lui offrir une Bible. Il s'est considéré comme faisant partie de la famille. Hein, quand on a exprimé ça au début, comme on était nombreux à être de la famille, il a dit, ouais, c'est la famille, quoi. Et vraiment, on prie pour ce jeune que Dieu ne s'arrête pas là dans sa vie et que cette colo, ça puisse être aussi un tremplin pour lui pour rencontrer le Seigneur. Vraiment, c'est notre désir. Alors, priez pour lui. Il s'appelle Kerian. J'espère qu'on aura la joie de le revoir. Mais il est resté aussi pour le camp ado. Et malgré son jeune âge, il a aussi très bien fait le travail. Et on bénit Dieu pour sa présence aussi. Toujours intéressant d'avoir des jeunes aussi, des apprenants avec nous dans le travail. Ces fois, c'est un petit peu, il faut leur apprendre des choses et tout, il faut prendre du temps pour eux. Mais c'est aussi à notre bénéfice. Et donc, comme je l'ai dit au début, le thème de cette année, c'était les super-héros. Alors, on a eu l'occasion d'aborder avec les jeunes, nous, les héros de la foi. En exemple, je prendrai Abraham, Rahab, Josué, puis bien sûr, Jésus. Et ma première question ce matin, c'est, est-ce que vous connaissez des super-héros ? Pas personnellement, bien sûr, attention, à part mon père, des choses comme ça et tout, mais bon. Qu'est-ce que vous connaissez comme super-héros ? Citez-en moi, s'il vous plaît. Bon, allez, on connaît tous un super-héros. Superman, Spider-Man, Captain America, Hulk, Goldorak. Voilà, cette année, nous, on avait comme super-héros, on avait Super Paper, on avait Super Dodo, on avait Super France, Captain France, on a eu Super Rythme, Super Tempo, Super Propre, voilà, on a eu une panoplie de super-héros avec leurs méchants aussi, pardon ? Super Dormez, On a eu aussi, nous, en colo, une panoplie de super-héros. Et qu'est-ce qu'ils ont en particulier, ces super-héros? Qu'est-ce qu'on admire chez eux? Ils n'ont pas peur. Ils sont super, la force. Leur pouvoir, merci. Les super-héros, ils ont tous des super-pouvoirs. Et c'est souvent ce qu'on admire chez eux. Leur force, leur capacité surhumaine, la capacité aussi qu'ils ont de pouvoir peut-être lancer des rayons, voler, etc. Et puis, des fois, c'est vrai qu'on avoue, on aimerait bien avoir les mêmes. Moi, ce que je disais aux enfants, c'est que quand j'étais jeune, j'aimais bien Tarzan. Parce que Tarzan, c'était... Mais non, mais pour moi, c'était un super-héros qui était encore plausible. C'est-à-dire, il s'est retrouvé dans la jungle, il était costaud, il allait de liane en liane et tout. Puis moi, je me sentais un peu comme lui, quoi. Et donc, c'était quand même un super-héros. Bon, il n'y avait pas de rayon X, il ne pouvait pas voler, mais en même temps, c'était plausible. Donc, on, quelque part, on voit en eux aussi des capacités qu'on aimerait bien avoir des fois. Et il nous arrive de penser, même en tant qu'adulte, que si on avait des super-pouvoirs, on pourrait faire des super-choses. Et puis souvent, en plus, je trouve que les super-héros sont trop cool parce qu'ils ont plein de gadgets. Et puis, ils ont des super voitures, des trucs qui peuvent janter, des machins, des... Voilà, c'est trop bien, quoi. Et je me suis posé la question et je vous la pose. Si tu devais être un super-héros, lequel serais-tu? Ou en tout cas, si tu pouvais avoir un super-pouvoir, lequel serait-il? Mais encore plus loin, avec ce super-pouvoir, qu'est-ce que tu ferais? Comment est-ce que tu l'utiliserais? Alors les super-héros, ceux des films et des dessins animés, ces super-pouvoirs, ils sont quand même dans un but. Ils ont un point commun, c'est que leur mission, c'est de faire le bien, de sauver des vies et d'aider les gens qui les entourent. Grâce à leur super-pouvoir, leur objectif est de sauver le monde et parfois même au sacrifice de leur vie. En fait, je me suis dit que c'était un petit peu peut-être une fascination biblique. C'est-à-dire que les héros qu'on essaye de créer, de reproduire, en fait, inconsciemment ou consciemment, parce que c'est quand même dans la conscience collective, ils veulent reproduire le modèle du super-héros qu'on a dans la Bible, le super-héros originel, Jésus, qui est venu donner sa vie pour les hommes. Est-ce qu'on peut dire que les super-héros sont des copies, des plagiats de Jésus? Je pourrais comparer, par exemple, Jésus avec Superman. Et c'est pour étayer mon propos aussi que c'est des plagiats. Superman et Jésus, ils ont la même mission. Porter sur leurs épaules le sort de l'humanité. Et les créateurs, ils l'ont très bien compris. Et de manière avérée, ils ont pris en exemple la Bible pour créer un verset biblique de Superman. Je vous le lis. En fait, avant que le père de Superman envoie son fils, son bébé, sur la terre, voilà ce qu'il dit. « Tu donneras aux hommes un idéal à atteindre. » Ils se précipiteront derrière toi, ils trébucheront, ils tomberont, mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil. Le moment venu, tu les aideras à accomplir des miracles. Et c'est avéré parce que j'ai lu des commentaires vraiment où est-ce que du coup on voit qu'ils se sont servis de la Bible et ils ont fait comme un verset biblique en fait pour Superman. Donc nous on n'a peut-être pas de super pouvoir, bien que... On peut être quand même à notre tour des super-héros. On va peut-être pas sauver le monde, mais on peut malgré tout faire le bien autour de nous et tenter de sauver des vies. Jacques 4, verset 17 nous dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Proverbe 3, 27 « Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain « Va-t'en puis reviens, c'est demain que je donnerai quand tu as de quoi donner. » Galates 6 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Un Pierre encore. « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer, comme des bons intendants des diverses grâces de Dieu. Mettez chacun au service des autres les dons que vous avez reçus. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Pratiquer le bien, aider son prochain est une chose qui est à notre portée. Ce n'est pas toujours facile et on a vraiment besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. pour exercer justement la charité. Quand j'étais avec Jean au téléphone, je lui partageais justement l'incompréhension face à mon comportement et la difficulté de comprendre. J'appréciais pas ce comportement que je pouvais avoir. Et Jean m'a dit que Dieu nous fasse miséricorde. Oui, que Dieu ait pitié de nous. Oh, combien j'ai besoin de Dieu dans ma vie pour changer ce cœur qui peut être parfois si dur, alors même que je connais le Seigneur depuis un bon nombre d'années. Maintenant, est-ce que vous pourriez me donner des exemples des super pouvoirs de Jésus ? Est-ce que vous avez quelques exemples en tête de ce que Jésus a pu faire avec ce qu'on pourrait qualifier de super pouvoir ? Il guérit des maladies incurables. Yes. Il ressuscite les morts. Lazare, la fille de Jaïrus, par exemple. J'ai entendu, il marche sur l'eau. Ouais. Il donne à manger aux poules. Il multiplie aux foules, pardon. Il multiplie la nourriture. Désolé, j'ai fourché. Il transforme l'eau en vin. Il pardonne les péchés. Il marche sur l'eau. Il connaît les personnes et savent ce qu'ils pensent. On voit l'exemple de Nathanaël quand il était sous le figuier. Il y a aussi même un passage où Jésus passe à travers les portes. Vous savez, quand les disciples sont ensemble après la résurrection, les disciples sont ensemble dans une pièce et Jésus apparaît au milieu d'eux. Et alors que la porte est signalée qu'elle est fermée. Donc, Jésus a une foule aussi de super pouvoirs et on le voit, il a fait un bon nombre de miracles. Malgré cela, je pense que Jésus est un peu différent des autres super-héros. Déjà, Jésus est un héros humble qui ne cherche pas à se mettre en avant. Et puis j'ai un petit peu bugué avec ça, mais j'avais envie de dire que il n'a pas caché son identité, bien que au début il n'a dit ne révélez pas que je suis ce que vous savez, etc. à ses disciples. Mais il y avait quand même une double identité, Jésus. Il était en même temps homme et en même temps Dieu. Mais ce que je dirais, c'est que Jésus ne s'est pas caché derrière un costume et que lui est venu comme les autres, comme un simple homme, comme nous. Voici ce que Jésus dit de sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et un autre passage nous dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors bien que Jésus soit retourné auprès de son Père, je pense que cette mission, elle demeure, car Jésus veut toujours sauver des vies. Et cette mission, elle perdure, et on est partie prenante maintenant de cette mission, puisqu'il nous a donné cette mission à nous-mêmes, on la voit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous a donné cette mission, c'est de « aller ». On le voit, les super-héros, comme Spider-Man, etc., qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent aller dans la ville pour se rendre compte des méfaits des méchants, pour pouvoir aller à l'encontre de ces méchants. Et donc, du coup, Dieu aussi nous envoie parmi nos contemporains pour témoigner que Jésus est notre sauveur, les baptiser et les enseigner. Je relisais ces derniers jours Éphésiens et Paul, il nous parle justement aussi de cette mission d'une autre manière. Il nous dit que nous avons reçu un mystère qui doit être révélé. Il dit aussi autre chose, il dit que ça doit être mis en lumière afin que les autres hommes, les hommes puissent le comprendre. Et bien sûr, alors on n'a pas de super pouvoir, mais comme je disais aux enfants, Dieu, qu'est-ce qu'il nous a laissé quand même ? Il ne nous a pas laissé tout seul. Dieu, il nous a envoyé son esprit. Et parfois, on regrette de ne pas avoir vécu au temps de Jésus pour l'avoir vu physiquement et vu ce qu'il avait fait. Mais Jésus a bien dit à ses disciples, il vaut mieux que je m'en aille car je vous enverrai le Consolateur. Et donc cet esprit qui vit maintenant aujourd'hui en nous. Et donc en fait, on n'a pas Jésus, mais nous, on a cet esprit, ce super pouvoir que Dieu nous a donné pour que nous puissions aller témoigner et que nous puissions aussi aller au-devant des autres. Alors on est responsable d'accomplir cette mission et Spider-Man, son oncle, lui dira « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Nous sommes responsables d'aller témoigner aux autres de ce que nous avons reçu. Et cette mission, Dieu nous appelle à la faire en nous réjouissant. C'est ce que je voulais faire au travers de cette prédication, partager avec vous un petit peu de mon été et communiquer la joie que j'ai reçue. La joie dans le service, de servir dans cette colonie, la joie d'avoir pris du repos, la joie de me rendre compte aussi que, ben oui, j'étais fatigué suite à ce service et à ce qu'on peut faire aussi tout au long de l'année. Mais la joie qu'on a dans le Seigneur. La Bible, elle nous dit que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses, Jésus dit, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors les vacances, ça a été aussi pour moi l'occasion de relire des petits livres. Donc j'aime bien cette petite série. Et là, j'ai relu Au risque d'être heureux de John Piper. Et dans ce livre, John Piper, il nous parle de l'hédonisme chrétien. L'hédonisme, c'est le principe selon lequel il faut chercher à se faire plaisir et à éviter la souffrance. John Piper, en suivant le principe biblique, nous invite à traiter le plaisir comme un devoir. Et il cite d'ailleurs les héros de la foi, comme Moïse qui a écrit « Pour n'avoir pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras tes ennemis. » David servait l'Éternel avec joie, il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Jésus lui-même dira « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. » Lui-même endurera la mort sur la croix parce qu'il avait en vue quoi ? La joie qui lui était réservée. Et à ses serviteurs, Jésus promet d'entrer dans la joie de ton maître. Paul et Pierre vont écrire « Attristés, quoique toujours joyeux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. » Donc tous ces versets nous montrent qu'on doit se réjouir. Et John Piper, ce qu'il combat dans ce livre, c'est un peu l'idée que le service doit toujours se faire dans l'affliction. Et il nous encourage plutôt à nous réjouir et à faire les choses avec joie. Michée 6, verset 8 nous dit « On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. » Est-ce qu'il est légitime de servir Dieu sans en éprouver de joie? Est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'ordre divin quand nous faisons des choses par obligation, par habitude, par contrainte même? Souvenons-nous que Dieu ne regarde pas à la quantité de choses que l'on fait, mais il regarde à la qualité, à la manière dont nous le faisons. Cherchons à nous faire plaisir dans le service, car servir avec joie est une façon de rendre gloire à Dieu. Et notre but n'est-il pas de rendre gloire à Dieu? Éphésiens 12, versets 13 et 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux qui s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Notre vie est une célébration. Elle doit être une cérémonie. Une cérémonie, c'est une fête à la gloire de Dieu. Un peu comme nous sommes en train ici de faire. Alors on a été après dans les Cévennes en famille, à la suite de la colonie. Et je dois reconnaître que parfois chez moi, il y a une forme de culpabilité à prendre du repos. Et lire ce livre, ça m'a permis aussi de réaffirmer que Dieu se réjouit aussi de mon repos, de mon plaisir. Et qu'il est de mon devoir de me réjouir en tout temps et même dans le repos. Sophonie 3, verset 17 nous dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Dieu éprouve de la joie à mon égard. Et Dieu éprouve de la joie à ton égard, dans ce que tu fais. Se réjouir d'une belle région, d'un beau paysage, profiter d'une bonne activité, d'un bon moment, de la famille, tout cela contribue à rendre gloire à Dieu. Et c'est vrai qu'en comparaison, je voulais prendre les enfants. Si j'emmenais mes enfants en vacances et qu'ils étaient toujours en train de faire la tête, qu'ils ne se réjouissaient pas de ce qui les entoure, de la piscine, de la bonne activité qu'on est en train de faire, si on était en train de jouer et qu'ils étaient en train de faire la tête, est-ce que moi j'apprécierais? Non. Dieu apprécie aussi qu'on se réjouisse dans les temps qu'il nous donne, dans ce qu'il nous permet de faire, dans le service, dans le repos, dans les activités. En toute chose, on doit se réjouir et c'est là que Dieu prend en tout cas plaisir aussi dans ce que l'on fait. Dans la Genèse, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le sixième jour. À la suite de quoi, on voit tout de suite, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, parce que en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Si Dieu a pris du repos, celui qui ne sommeille ni ne dort, a pris du repos en bénissant et en sanctifiant le septième jour, jour de repos. À combien plus forte raison, moi-même, je dois... Mon devoir est de me reposer et de me réjouir dans ce que j'ai pu accomplir pour le Seigneur. Je regardais mon téléphone et je me disais, être en veille ne veut pas dire être éteint. Lorsque mon téléphone est en veille, il est au repos, il préserve sa batterie, mais dès que je reçois un appel ou une notification, mon téléphone s'allume. Le repos, le plaisir, est aussi une forme de veille. Et recharger nos batteries nous permettent après d'accomplir l'œuvre du Seigneur, peut-être ressourcée avec davantage de zèle. Alors, nous avons partagé aussi un culte là-bas avec nos frères de Saint-Jean-du-Gard. Et puis, le pasteur nous a comparé à un vase percé, en disant que l'Esprit peut nous remplir, mais continuellement on se vide, un peu comme une rivière qui coule. Dieu déverse en nous son Esprit, mais il continue de couler. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut conserver. Ce n'est pas un vase qu'on remplit et qu'on est à saturation et que c'est tout. On est toujours dans la plénitude de l'Esprit. Non, c'est un vase qui se remplit, qui s'écoule et qu'on doit sans cesse re-remplir. C'est pour ça qu'il est important de remplir ce vase pour ne pas finir desséché. Le psaume 16 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » La recherche du plaisir n'entrave pas ma marche avec Dieu. Si c'est en Dieu que je recherche ma satisfaction. C.S. Lewis dit qu'il est du devoir du chrétien d'être aussi heureux que possible, aussi bien en quantité qu'en qualité. Et le vrai problème ne vient pas de la recherche du plaisir, le vrai problème il vient de notre faible contentement. En fait, on est en réalité bien trop souvent facilement satisfait. On devrait cesser de se contenter de petits plaisirs éphémères terrestres et plutôt viser les plaisirs célestes que Dieu veut nous offrir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et l'Éternel a des délices éternelles à nous donner. Il y a dans la Bible cette notion quand même de récompense. Dieu veut nous donner en abondance, il veut nous faire goûter à des délices, il nous promet même de nous récompenser, c'est clairement dit dans plein de passages, et on est encouragé à faire quoi ? À amasser des trésors, mais pas sur la terre, dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Mais il est bien question d'amasser, de se faire des provisions, de mettre de côté, d'épargner sur la terre des choses célestes pour que ce placement... un jour on puisse le retrouver et on aura notre récompense là-haut. Et ça nous rapportera. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Si nous sommes ici ce matin, c'est pourquoi ? Souvent on dit que l'Église c'est une Église de consommateurs. Et des fois, on veut aller contre cette idée. Mais je pense qu'il ne faut pas lutter contre cette idée, parce qu'en fait, en tout cas, c'est ce qu'il dit aussi dans ce livre. C'est vrai que quand on vient ici à l'église, qu'est-ce qu'on fait ? On vient pour recevoir de Dieu. On veut être consommateur de Dieu. On veut recevoir de lui, justement, ses délices. On veut goûter à ces choses que Dieu veut nous donner. Alors, mon désir, vraiment, cette année, c'est que nous puissions, en église, chercher notre plaisir en Dieu. Chercher à recevoir de lui tout ce qu'il veut nous donner, cette abondance qu'il veut déverser en nous, afin qu'on puisse déjà sur terre goûter aux délices éternels. Et je vous quitterai sur un passage de ce livre. Alors, il parle ici, en fait, de l'implication dans l'adoration, justement, de l'hédonisme. Une compréhension erronée de la vertu étouffe l'esprit d'adoration. L'individu qui nourrit l'idée confuse selon laquelle le renoncement à des intérêts personnels est une vertu et la recherche du plaisir un vice sera difficilement en mesure d'adorer. En effet, l'adoration est l'expérience la plus hédoniste qui nous soit donnée de vivre. Ne la laissons donc pas être ternie par la moindre pensée de désintéressement. Le plus grand obstacle dans notre adoration de Dieu n'est pas le fait que nous recherchons trop de plaisir, mais bien que nous nous contentons de plaisirs misérables. Chaque dimanche à 10h, Hébreux 11, verset 6, livre bataille avec des conceptions populaires en matière de qualité désintéressée. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous ne nous approchons pas de lui avec l'espoir d'être récompensés. Par conséquent, l'adoration qui réjouit le cœur de Dieu correspond à une recherche hédoniste de sa personne. Il est notre récompense par excellence. Il y a abondance de joie devant sa face et des délices éternels à sa droite. Trouver notre satisfaction en tout ce que Dieu est pour nous à travers Jésus constitue l'essence même de l'adoration authentique. Elle est le plat principal du festin de l'hédonisme chrétien. Alors, mon désir vraiment, c'est que vous puissiez rechercher à être des hédonistes, mais des hédonistes chrétiens, à chercher à trouver en Dieu votre joie et à trouver cette abondance que Dieu veut nous donner. Ne pas se contenter de petits plaisirs éphémères que la vie peut nous accorder, bien qu'il y a des bons plaisirs. Faut pas tout mettre dans le même sac, mais Dieu nous offre des plaisirs. Dieu veut nous offrir de bonnes choses, des réjouissances. Et bien qu'on puisse vraiment les saisir et qu'on puisse chercher justement à combler nos vies de bonheur, de joie, en étant dans la proximité avec le Seigneur et en vivant cette vie d'église qui est riche et qui est parfois difficile, c'est sûr, c'est des contraintes aussi des fois de donner de son temps, de quitter son foyer, de quitter sa famille, etc. Mais le Seigneur nous dit aussi que nous recevrons au centuple. Celui qui quittera son père, sa mère, ses enfants, tout ça recevra son héritage de la part du Seigneur. Alors que vous puissiez avoir ça aux têtes et puis que vous puissiez être heureux dans votre vie, heureux dans tout ce que vous faites pour Dieu. Voilà, soyez bénis.